Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit et d'audit Mazars. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Frédéric Farah, économiste, enseignant, chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne. Phare pour philosophie, histoire et analyse des présentations économiques. On va dire un mot juste des triple A avant d'évoquer ce débat qu'on a eu la semaine dernière. Alors, leçon dans toutes ou pas toutes les agences, mais en tout cas ont encore un triple A, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie a encore un triple A, Canada, Suisse,
Pays-Bas,
Danemark. Et effectivement, oui, le Luxembourg aussi est dans les trois principales agences. On a les Pays-Bas dans les trois agences, la Norvège aussi, Nouvelle-Zélande et qu'est-ce que je vois, Suède, Singapour. Voilà. En gros, voilà. Et Suède, ils sont dans les trois agences, Singapour aussi. Et vous, ça vous inspire une réaction ?
Oui, parce que en fait, on a continué de discuter pendant la pause.
Ça nous arrive souvent, ça.
Et effectivement, c'est les pays qui sont encore triplés, c'est des pays où les gouvernements banques centrales sont assez en faveur d'une politique monétaire restrictive.
Oui.
Donc, je pense que ça va jouer dans le débat de la banque centrale. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est que 75 points de base d'augmentation, ça pourrait aussi avoir un objectif de taux de change, parce
oui.
que ça serait favorable à une augmentation de l'euro.
Oui.
Et compte tenu que l'inflation est importée, c'est pas idiot de penser à ça. C'est pas mal de penser à ça aussi.
Ah
à un moment, Draghi
peut,
est intervenu justement pour, alors en disant bien sûr que non, je ne pense pas au taux de change, c'est pas mon rôle. Néanmoins, il était quand même intervenu une fois pour des impératifs de taux de change.
Et
ça pourra avoir un impact. Cela étant, si ça passe à 75, je pense que les marchés vont être assez perturbés. Et parce qu'ils anticiperont une récession et ils seront vraiment alors maintenant les marchés, enfin tout le monde réagit tellement au discours que je pense que c'est pour ça que je pense que le message sera important. Les marchés peuvent, a priori on penserait que les marchés seraient très perturbés par une augmentation de 75, mais ils peuvent aussi se dire c'est le signe qu'on est proche du pic, puisqu'on pousse vers une récession. Si on va avoir une récession, on va avoir une pression à la baisse sur la demande. Donc, ce qui veut dire qu'après, ça ira mieux. Mmh. Et donc, ils peuvent aussi réagir positivement. C'est très compliqué maintenant de comprendre les évolutions financières compte tenu de l'impact des messages.
C'est très compliqué.
Guillaume et Frédéric, et après j'avance.
Compliqué, mais la Banque Centrale, à mon avis, va jouer la carte de la prudence. Enfin, sauf si les Allemands sont en train de pousser à l'arrière très fortement. Ce qu'on sait, c'est que les Autrichiens sont assez... faucon traditionnellement, il y a toujours dans ce conseil de la BCE la fracture entre les pays frugaux et sérieux qui n'ont pas forcément, enfin les Suisses ne sont pas, les Suisses ont toujours eu des taux d'intérêt très bas, mais ils n'ont pas d'inflation, donc c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir
peut-être on peut dire comment va être prise la décision. C'est le conseil des gouverneurs où il y a les gouverneurs de tous les pays membres de la zone euro,
19 États,
plus les membres du conseil des gouverneurs de la BCE dont Philippe Lane qui est l'économiste. Et donc le débat c'est effectivement entre les gouverneurs de pays qui sont plutôt favorables à une politique monétaire restrictive, donc le gouverneur allemand, le gouverneur des Pays-Bas, l'Autrichien, qui a peut-être moins de poids que l'Allemand et les Pays-Bas. Le gouverneur des Pays-Bas a beaucoup de poids, parce qu'en général, c'est lui qui fait la balance entre les pays restrictifs et les pays plus souples que sont l'Espagne, l'Italie.
Voilà.
Et en plus, le gouverneur des Pays-Bas est aussi le président du Fonds de stabilité, du Forum de stabilité financière. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal de puissance.
Mais alors, il est très faucon, mais... L'immobilier en Hollande commence à souffrir. Et les fonds de pension hollandais aussi. Et on se souvient ce qui s'est passé pour les fonds de pension anglais il y a 3 mois. Donc, il n'est pas sûr. Et au fond, moi, j'écoute le gouverneur de la Banque de France. Je ne sais pas s'il l'a dit aussi clairement, mais j'ai l'impression qu'il a dit 0,50. Et la France...
Il a dit 0,50, je crois bien, François
Leroy
de Gallo, oui.
Se retrouve finalement dans une position intermédiaire dans cette situation. Et donc, je pense que le gouverneur, que François Villeroy de Garo l'emportera.
Frédéric Farah, par rapport à ce qu'on a dit, et puis après,
en fait, on se retrouve toujours avec le même problème, c'est-à-dire comment tenir ensemble plein de choses qui sont très difficiles à mettre ensemble. C'est-à-dire, il faut veiller à la stabilité financière, la stabilité économique, le taux de change, lutter contre l'inflation. Bon. Alors.
Avec une arrière-pensée croissance ou récession.
Oui, et croissance et récession. Parce que, vous savez, C'est l'occasion de se rappeler de vieilles choses de l'histoire de la pensée économique. Hein. Je ne veux pas y échapper. Ce qu'on appelait autrefois le carré magique de Cal d'Or. Alors, c'était quoi le carré magique de Cal d'Or ? C'est-à-dire qu'il y a 4 objectifs de politique économique. la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix, l'équilibre extérieur. Les quatre ne peuvent pas aller ensemble, ils fonctionnent par couple et les deux rentrent en tension. Vous pouvez avoir la croissance mais le plein emploi, mais si vous voulez la croissance plein emploi, vous devez accepter le risque d'un déséquilibre extérieur et le risque de plus d'inflation. Et selon les époques, on choisissait plutôt de faire balancer vers le couple croissance plein emploi ou plutôt inflation. Alors à un moment donné, ce truc c'est un peu compliqué quand on a eu de la stagflation. On s'est dit, comment on va faire quand on a les deux à la fois? Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec le même problème, c'est-à-dire si on combat l'inflation, comment faire pour s'assurer que la croissance, elle demeure? Et en même temps, il faut aussi, parce que c'est sa mission à la BCE, c'est aussi la stabilité financière. Donc il ne faut pas que les marchés rentrent en turbulence aussi, d'une certaine façon. Et la politique de taux de change, qui a toujours été le grand problème, le grand impensé de la BCE depuis le début. Et ça, si vous voulez, alors on ajoute enfin une petite sauce de pensée économique encore un peu. Il y avait autrefois, je veux dire, ça paraît lointain, et ces règles de politique économique qui sont passées un peu dans l'oubli, qu'on appelait la règle de Mundell et la règle de Tinbergen. Alors que c'était quoi la règle de Mundell et Tinbergen? C'était comme ça qu'on faisait du policy mix. C'est-à-dire que en fonction de l'objectif qu'on se donnait, par exemple la croissance plein emploi, on devait trouver l'instrument le plus adéquat. Par exemple, on disait soit le budget, soit la monnaie. Et ensuite, si on se donnait, par exemple, trois objectifs, il fallait autant d'instruments que les objectifs. Et c'était comme ça qu'on fabriquait la politique économique. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je trouve que ces vieilles choses d'autrefois sont pas idiotes à repenser pour se dire, mais comment, selon les objectifs que l'on veut, quels sont en Europe? Parce que l'Europe, vous savez, le grand truc de l'Europe depuis 99, c'est quel est le bon policy mix en Europe? C'est-à-dire comment on manie du budget et de la monnaie, surtout que le budget, il est décentralisé, il est au niveau des nations plus ou moins encadré, et le budget européen, il pèse pas. Et ce qui est fédéralisé, c'est la monnaie. Donc, un élément fédéral avec des éléments qui ne sont pas fédéraux. Donc, comment on met tout ça ensemble avec 19 pays? Progressivement, il n'y en avait pas 19 au début, mais il y en avait 19, et mettre tout ça ensemble. Donc, ces vieux trucs d'autrefois, que je connais bien, parce que j'aime bien ces histoires de la pensée économique, eh bien, c'est pas idiot d'y repenser. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le bon instrument par rapport aux objectifs qu'on vise, et comment on articule? Surtout qu'en plus, on a tenté de faire la mutualisation de dette en Europe avec ce plan. Et au niveau national, on a dit aux gens, bon, maintenant, les critères de Maastricht, on va les laisser de côté parce qu'on n'a pas le temps d'y penser. Mais on est en train d'y penser pour 2024. Donc, c'est pour ça que tout ça, je trouve ça absolument passionnant.
Vous devriez faire le carré Farah, là. Parce qu'en fait, oui, c'est passionnant de vous écouter sur ces histoires-là. Mais c'est vrai que là, on est dans une position.
Cube Farah, là.
C'est le cube Farah. avant d'évoquer, justement, je vais revenir sur budget monnaie et budget monétaire. La France est double A2 chez Moody's, double A chez S&P, double A chez Fitch. Si on se fait dégrader, là, Guillaume Dard,
Alors, comment est-ce qu'on est noté?
On est passé en perspective négative, vendredi.
Comment est-ce qu'un pays est noté? Un pays est noté par rapport à un ensemble de critères économiques et financiers, et notamment, le plus important de tous, c'est sa dette et sa capacité, non pas à rembourser la dette, parce qu'on la rembourse jamais, mais à assurer le service de sa dette, c'est-à-dire...
Solvabilité,
liquidité. C'est d'accord. Assez...
Oui, c'est un peu les deux, c'est vrai.
Alors... Quelle est la force de la France traditionnelle dans sa politique financière? C'est qu'elle est le pays le plus fort pour faire rentrer les impôts.
Ouais.
Bon. Ce qui est une qualité pour un pays rassurant pour celui qui prête à la France. Quelle est sa faiblesse? C'est qu'elle a déjà le taux d'imposition le plus fort de la plupart des pays que vous avez évoqués. Donc, la marge... Comme la dette a augmenté très fortement, rappelons quelques chiffres, elle est à 20% à la fin du septennat de Giscard d'Estaing. Elle doit monter vers 45% à la fin de celui deuxième de Mitterrand, premier, peut-être déjà à 60. On était à 60 à la crise de 2008. Je vous fais pas tout le film. On est à 115 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la dette, elle a quintuplé par rapport à la richesse produite chaque année. On a 5 fois plus de dette.
115% du PIB, je crois qu'il faut.
Voilà, du PIB, oui. de la richesse produite par la France. Donc, quand un couple, s'endette 5 fois plus, c'est que son revenu, c'est différent que quand il a 20% de dette par rapport à son revenu. Donc, on est trop endetté.
On a un gros taux d'effort en France, au niveau souverain.
Deux, comment elle va bouger? La dette, elle bouge pour trois raisons. Qu'est-ce qu'on dépense? Qu'est-ce qu'on a comme recette? Et comment vont varier les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt sont plutôt en train de monter, on ne sait pas de combien. Donc ça, c'est pas bon.
On est en taux d'intérêt réel négatif.
Oui, taux d'intérêt réel négatif. Ouais, enfin, c'est des taux d'intérêt nominaux que vous payez.
Oui, d'accord.
Deuxième, et puis on ne sait pas quelle est la croissance réelle. Donc, deuxièmement, les dépenses n'ont pas l'air de partir pour diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a le fonctionnement français. Et deuxièmement, il y a des dépenses très importantes qu'on a à faire en termes de transition climatique dans les années à venir. On a en plus vu que du point de vue militaire, il fallait quand même arriver à être capable de faire face à des situations aussi dangereuses que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc structurellement, on va avoir plus de dépenses. Conjoncturellement, on a plus de dépenses, on fait des boucliers. Et idéologiquement, pas du gouvernement, mais la France veut plus de dépenses. Bon, donc on a plus de dépenses. Est-ce qu'on peut monter les recettes ?
Ben, l'inflation tire les recettes.
Oui, mais en nominal, mais en pourcentage, oui. vous allez pas. Enfin, là, vous avez raison. S'il y a énormément d'inflation et qu'on monte pas tellement les dépenses, mais enfin, les dépenses, on va parler des indexations. Les dépenses, elles vont être indexées sur l'inflation. Donc, notre marge, elle se réduit, et donc la personne, l'agence de notation, elle dit bon ben, endettée comme est la France, dépensière comme est la France, taxant aussi fortement. Il n'y a pas beaucoup de marge, et donc marge. Le crédit, bon, est moins bon.
Frédéric Farah, et puis par rapport à ce risque de dégradation, ce n'est pas une perspective là, qui serait abaissée, c'est une note dégradée. Hein. Ouais. Allez-y Frédéric Farah.
Je dirais deux choses. Alors, il y a toujours la question qui est passionnante et qui n'est pas facile à répondre. Est-ce que parce qu'il y a plus de dettes, il y a moins de croissance, ou parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus de dettes?
Les deux.
C'est une question, et j'ai pas la prétention en 30 minutes ou en 2 minutes même d'y répondre, mais c'est une vraie question. Et c'était tout le débat, vous vous souvenez, passionnant, lorsque Kenneth Erogoff avait fabriqué, effectivement, avait dit si on dépasse un certain seuil pour les pays développés ou autres, et tout. Et Krugman avait répondu oui, non, mais alors la corrélation, il faut l'inverser, c'est pas parce qu'il y a plus de dettes qu'il y a moins de croissance, mais il avait dit parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus de dettes. Alors après, on peut se
battre. Ouais, mais enfin, l'augmentation de dettes des 40 dernières années au niveau mondial, et on rentre pas pays par pays, a généré marginalement de moins en moins de croissance. C'est le cas de la Chine, il faut plus de dettes.
Oui, mais.
Il faut maintenant 2 ou 3 unités de dette pour faire une unité de croissance.
Il n'y a pas que la dette, il y a le facteur démographique.
Oui, mais il y a un truc qu'il faut
pas oublier. Mais la démographie mondiale, elle n'a pas diminué.
Non, mais bon,
on parle du monde.
D'accord. Non, mais il y a juste un truc que je voudrais juste dire, et puis je reviens sur le risque de dégradation en tant que tel. Mais on a oublié quand même une époque, qui était celle des années 90 jusqu'à l'entrée dans l'euro, où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Et ça a eu un effet, on était à du 5-6%, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Dans les années 90, les taux d'intérêt ont été réels extrêmement élevés, parce que je rappelle que dans les années 90, l'inflation avait quasiment disparu, elle était pratiquement nulle, et en même temps, les taux d'intérêt étaient très élevés. Souvenez-vous que quand la Banque Centrale Allemande relève ses taux d'intérêt à cause de l'inflation qui était liée à la réunification allemande, nous avons suivi en 93 alors qu'on n'en avait pas besoin, et on a eu une crise économique pas possible parce qu'il fallait se maintenir pour les critères de l'euro, et on a même eu la spéculation sur le franc, souvenez-vous. Et je me souviens de Jean-Paul Fitoussi, pour qui j'ai une admiration sans borne et à qui je dois tout, qui disait que la politique monétaire des années 90 était anormalement restrictive. Je m'en rappelle comme c'était hier, et que ça a eu des effets aussi sur la dette. C'est ça aussi. Et c'est avec l'entrée dans l'euro que les taux d'intérêt, au départ, avaient baissé, et ensuite ils repartent, à la hausse entre 2001 et 2008, en tant que tel. Mais la dette a eu aussi pour facteur un tassement de la croissance et des taux d'intérêt qui ont été très élevés quand on a fait de la désinflation compétitive dans les années 80-90. Ne l'oublions pas, la désinflation compétitive avait eu pour objectif. Je rappelle quand même que l'inflation était au cours de 14% en
80. Vous avez 100% raison, mais on n'avait que 60% de dette sur PIB au début des années 2000.
Allez-y Sylvie, puis on reviendra sur le risque de dégradation, l'actualité.
Je vais bien revenir sur ce risque de dégradation, parce que je trouve qu'on est quasiment uniquement là dans nos explications sur des données financières. Et je pense que les agences regardent aussi le potentiel de croissance future qui est lié à notre capacité, notre réalité d'investissement. Et il faut bien regarder que depuis des années, l'Europe d'une manière générale et la France en particulier n'a pas fait toute la politique d'investissement qu'on a pu voir dans d'autres pays, les États-Unis en particulier. Donc c'est vrai que du point de vue de l'agence de rating qui nous a mis sous perspective négative, ce qui veut dire que soit... il y a deux solutions possibles. Soit elle abaisse le rating, soit elle redevient stable. Mais je dois dire, la marge de manœuvre pour revenir stable est très, très étroite. Il y a non seulement ces aspects financiers qui sont liés à la dette, le coût de la dette et la possibilité de la résorber, mais aussi notre potentiel de croissance future qui est lié à nos investissements. Et il faut bien reconnaître que les pays européens, et la France en particulier, on a été beaucoup plus axés sur donner des chèques à droite et à gauche, faire en sorte de compenser compenser les problématiques ou favoriser peut-être les exportations et pas tellement favoriser la demande intérieure et faire tous les investissements que d'autres pays en fait. Les États-Unis sont dans une situation nettement plus favorable et ont eu une croissance nettement plus élevée que l'Europe sur les 10 dernières années. Ils ont maintenu un potentiel d'investissement et ils ont continué à investir de manière très très significative et ça c'est important.
Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment d'accord sur l'idée qu'effectivement l'Europe souffre de manière globale d'insuffisance d'investissement.
Et c'est grave parce qu'on souffre aujourd'hui. Alors, l'investissement, c'est la croissance de demain. Donc si on ne fait pas d'investissement et si on ne fait pas d'investissement depuis des années, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas de croissance.
Et pour aller dans le sens de Sylvie, une des raisons pour lesquelles on ne fait pas d'investissement, c'est parce qu'on n'a pas assez d'épargne en France. Et je le dis, on dit tout le temps qu'on a 14% d'épargne.
Oui, parce qu'on pense épargne privée.
Parce que les deux tiers de cette épargne vont où ? Dans l'immobilier. Dans les 14%, on calcule les remboursements de prêts immobiliers. La France a trop investi globalement dans l'immobilier. Et il y a une équation macroéconomique que Frédéric doit mieux savoir que moi. I égale S. Et donc, si le S, c'est-à-dire qu'avec le S, il faut qu'on rembourse la dette, il faut qu'on fasse le logement social. Et donc, sur l'investissement productif, il n'en reste pas beaucoup. Alors, on peut un peu détourner en faisant une mécanique de la banque public d'investissement, ça fait un bon job, mais ça tire sur la dette. On manque en France d'épargne financière fléchée vers l'investissement productif.
Je vais t'offrir une transition.
Oui, vers quoi mais je...
Vers les retraites.
Non, mais je ne m'apprêtais pas à parler des retraites.
Comment faire pour mobiliser il faut favoriser les retraites par capitalisation, je pense, vraiment. Et ça mobiliserait l'épargne.
Personne au niveau de l'exécutif n'a osé utiliser le terme. Et pourtant, déjà, les syndicats annoncent une première journée de mobilisation.
Non, mais attendez, si les gens précipitent sur le plan épargne-retraite, il y a un besoin d'investir dans des fonds pour la retraite. Parce qu'en fait, le principal problème de la retraite, plus que l'âge à mon avis, c'est qu'on a une perte de pouvoir d'achat considérable quand on passe à la retraite. Et donc, pourquoi ? Parce que notre système, par répartition, il ne marche pas, il ne marche plus. Et il faut mettre, alors je ne dis pas complètement passer à un système de capitalisation, mais introduire une dose de capitalisation qui permettrait de mobiliser l'épargne vers autre chose que de l'immobilier.
On en a beaucoup parlé, l'OCDE a plaidé cette solution dans une note rendue publique la semaine dernière. Il y a eu la semaine dernière sur ce plateau Frédéric Farah, on était avec Jezabel Coupé-Soubéran, Jean-Pierre Petit, Jean-Marc Daniel. On a eu un échange, ça m'a rappelé le moment où on se demandait si la BCE devait annuler la dette Covid, avec le terme « annuler ». Et là, Jezabel Coupé-Soubéran, qui connaissait le sujet, explique que désormais, il faudrait passer à une étape supérieure. On a fait du quantitative easing, elle a repris des obligations d'État sur le marché secondaire. Il faudrait peut-être que maintenant, elle le fasse carrément à l'émission primaire, qu'elle reprenne des obligations d'État avec... un mandat très clair sur le fait qu'elle va effectivement monétiser la dette des États, mais dans des objectifs d'investissement, et exclusivement des objectifs d'investissement. Ça m'est tombé des bras. Quand vous entendez ça, vous vous dites, c'est peut-être le coup d'après, ou alors, non mais attendez, parce que moi je leur ai dit, mais attendez, pourquoi on ne le fait pas depuis 25 ans ? C'est tellement génial de se dire que la BCE va financer tous les investissements dans les domaines clés. Je ne sais pas si on peut accorder de la crédibilité à une idée pareille.
Voilà ma réaction. En fait, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit pour plusieurs raisons. Après la guerre, on a fait ce qu'on appelait la répression financière, c'est-à-dire le fait qu'on avait cadenassé un peu les marchés financiers et les banques centrales apportaient leur concours aux besoins de l'État à travers ce que vous étiez en train de dire. Puis on est rentré dans les années 80 dans ce qu'on appelait la répression monétaire, c'est-à-dire qu'on a interdit la monétisation des déficits et on a changé d'époque. On est passé de la répression financière à la répression monétaire. Donc on est rentré dans cette époque et on a construit la BCE sur cette base. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que... Et c'est ça qui est intéressant, même si la Fed, en apparence, est indépendante, elle marche de concert avec le Congrès. Donc,
franchement, oui.
Oui, franchement. Donc, c'est un organe politique, largement. Bon. Et je rappelle que la BCE, la Fed, on avait modifié son statut en 47 pour ajouter la lutte, la croissance et le plein emploi comme ses objectifs. Ce qui n'était pas le cas avant. Et en 47, on avait modifié son statut.
Et Guillaume Dard avait dit un jour, on a fusionné la Fed et le Trésor. Il faut reconnaître que c'est à peu près ça dans les faits.
Et donc, si vous voulez, effectivement, à la fois faire la transition énergétique, maintenir un niveau de protection sociale qui est un peu la marque de l'Europe dans la mondialisation, c'est là où il y a le plus de dépenses sociales, c'est ici.
C'est un fait.
Bon, c'est la marque de l'Union européenne dans la mondialisation, c'est là où les dépenses sociales sont les plus élevées. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde autant. Bon. Donc si vous voulez garder tout ça, et si en plus vous voulez remettre au goût du jour votre armée parce que elle n'en peut plus, Enfin, pas que l'armée française, l'armée allemande.
Les menaces sont là.
Les menaces sont là. Oui. Bon. Si vous voulez rêver de plein emploi, bon, à un moment donné, il faut sortir l'artillerie monétaire, si je puis dire, et donc passer à autre chose. Donc, éventuellement, ce serait une révolution, mais de dingue. Ou, comme certains avaient dit...
On fera une semaine spéciale BFM Business le jour où on appuie sur un bouton par.
Voilà. Et c'est comme certains avaient dit, il faut faire aussi du quantitative easing for the people. Et pas simplement du quantitative.
Je me souviens, ça s'appelle de l'hélicoptère monnaie. Hein.
Voilà. Bon. Donc, la solution ne me paraît pas folle. Elle me paraît pas folle. Elle me paraît tout à fait crédible par rapport à l'ampleur de ce qui est à financer.
J'ai envie de vous dire, Frédéric, pourquoi ça fait pas 15 ans qu'on le fait si c'est tellement génial.
Mais je vais vous dire, j'ai une idée.
Pour terminer.
Que là, j'ai jeté effectivement un peu d'huile sur le feu.
Chacun est dans son rôle. Mais
bon, Guillaume Dard, allez-y, on a 5 minutes 40.
La monnaie, c'est la stabilité d'une société. C'est-à-dire que quand on commence à faire des initiatives trop excentriques avec la monnaie, les sociétés s'effondrent. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 14. On pensait effectivement qu'il ne pourrait pas y avoir la guerre longtemps. C'est ce que Keynes avait dit. Il avait dit, dans 6 mois, il n'y aura plus d'or, donc on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on a fait? La Banque de France, elle ne s'appelait pas la Bundesbank, la Reichsbank de l'époque, la Banque d'Angleterre, ont financé les dépenses des États pour la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Une inflation incroyablement forte. En France, on en parle moins parce qu'on va parler de l'Allemagne, l'inflation française était partie à 20-30%. En Angleterre, c'était significatif aussi. Et quant à l'Allemagne, elle a dérapé complètement. On a eu, dans la République de Weimar, l'hyperinflation. Et on connaît la suite, après déflation, après Adolf Hitler. Bon, premier exemple qu'on connaît bien, celui de l'Allemagne. Deuxième exemple, celui de la Chine. Les communistes, ils étaient là depuis 20 ans. Mao faisait la longue marche, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, finalement, les communistes ont gagné en 49? C'est que la monnaie s'est effondrée à peu près à partir de 47. Et donc, tout le système, c'est-à-dire que tous les gens qui ont de l'épargne, tout, etc., perdent tout. Et donc, vous êtes avec une société qui est prête à suivre ensuite n'importe qui, un dictateur dans le cas d'Hitler, Mao Tse-tung dans le cas de chinois. Et si vous prenez le Venezuela aujourd'hui, le Zimbabwe, l'Argentine, c'est comme ça. L'Argentine, c'est pas des dictateurs, l'Argentine, c'est démocratique, mais enfin, c'est pas un succès absolument faramineux. Donc, toute initiative trop prolongée vers l'excentricité, et on y est déjà, enfin, dans l'hétérodoxie, disons. Les banques centrales sont hétérodoxes, ça a des limites, et ces idées sont, du point de vue moral, tout à fait louables et admissibles, mais ça ne marche pas.
Bon, alors,
Sylvie Matera, c'est passionnant cette question, même si on est peut-être un petit peu martien.
Une situation un peu, disons, intermédiaire entre ces deux positions. D'abord, je suis pas du tout d'accord que ça soit moral, parce qu'il y a un élément quand même très important. D'un point de vue démocratique, les banquiers centraux ne sont pas élus. Et quand même, les choix de politique générale, politique...
Non, mais moral au sens des propositions dont
d'accord.
parlait...
Donc, il y a quand même un problème démocratique. On peut pas donner à un organe qui est nommé et pas élu le pouvoir de décider de toute la politique qui oriente l'économie d'un pays. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose de base.
On parlait d'un collège très universel qui serait au-dessus...
Avec des politiques... Société civile,
économiste.
Et ensuite, c'est pas le rôle du tout. Moi, je crois que c'est pas du tout le rôle de la Banque centrale de faire une politique budgétaire, finalement.
C'est ça.
Et quand on dit qu'aux États-Unis, la Fed marche de manière très proche avec le Trésor, ça veut simplement dire que la politique monétaire et la politique budgétaire vont dans le même sens. Et c'est une bonne chose, parce que quand on voit qu'elles sont complètement opposées, ce qu'on a vu pendant très peu de temps en Grande-Bretagne, il n'y a pas si longtemps, ça marche pas. Donc, ça veut pas dire de s'aligner l'un sur l'autre, c'est-à-dire de faire en sorte que, de pas appuyer sur la pédale d'accélération et du frein en même temps.
C'est ce que disait Philippe Lane, d'ailleurs.
Et donc, je pense que, il faut, tout ce genre de discussion, ça a un intérêt intellectuel, mais en pratique, ça marche pas. Enfin, chacun a un rôle et doit remplir son rôle de manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en liaison avec les autres autorités qui sont en charge de leur domaine et qui, l'un avec l'autre, arrive à faire en sorte qu'une économie marche normalement bien.
À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Frédéric.
Voilà.
Oui.
On a 1 minute 50 avant de conclure.
Je vais être rapide. On voit bien en Europe, parce que le cas de la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est un État. Voilà. Là, on a fabriqué, parce que ça, on sait faire en Europe. Les usines à gaz, c'est notre spécialité, mais absolue. Quoi. Les usines à gaz, on sait faire mieux que n'importe qui. Donc là, on a fabriqué une usine à gaz de politique économique. C'est-à-dire, c'est la politique, enfin, en termes de statut, c'est la banque la plus indépendante sur le papier.
Bon, oui.
C'est, voilà. Ensuite, on a dit, bon, les budgets, ça reste au niveau national, avec des encadrements qui n'ont jamais vraiment bien fonctionné, puisque le pacte de stabilité n'a apporté ni la stabilité ni la croissance. Bon, voilà.
C'était... c'est vrai, objectivement, c'est vrai.
C'est vrai, donc ça n'a apporté ni l'un ni l'autre, c'est juste un nom. Bon, ok. Un budget européen qui a toujours été un budget de nains, autour 1%. De 1%.
Puis, ouais.
Voilà. Et au milieu de tout ça, on a dit, bon, ben, bonne chance, hein, faites une politique économique pour que ça marche pour tout le monde. Ben, évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce que le plan Biden, là, tous les plans de dingue qu'il nous a fait, 3000 milliards, puis 400 milliards par ici, dans tous les sens, s'il n'avait pas la monnaie à disposition pour lui, avec la Fed derrière, ben, ils n'auraient pas dit, bon, les Américains, je vais vous faire un gros plan à 3 milliards, puis ensuite un plan à 400 milliards, ou un plan, j'en fais tous les 4 matins, même si parfois les Républicains, ils sont pas d'accord, ou même les démocrates aussi, en tant que tels. En fait, nous, ce qui est génial en Europe, c'est qu'on a réussi à fabriquer un truc qui, à la fin, fabrique plus de l'impuissance que de la puissance. Et c'est ça qui est génial.
C'est la question qu'on posait dans cette émission. On s'est demandé si la Banque Centrale était impuissante ou incompétente.
Mais c'est que le problème, c'est que dans l'histoire, en fait, il y a un fantôme qui est revenu et qu'on ne pensait pas revoir et qui est en train de compliquer l'usine à gaz, c'est l'inflation. C'était le fantôme qui avait disparu.
Bah, et le revoilà. J'avais dit exactement le retour du fantôme de l'économie.
Mais les Allemands ne veulent pas voir ce fantôme et n'accepteront jamais d'initiative. Ils veulent garder leur triple A. L'euro, il est basé sur l'Allemagne et la Hollande.
Vous avez vu d'ailleurs que
nos propositions, elles pèsent pas lourd compte tenu de notre situation économique.